Vous écoutez RTL. Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douane. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bienvenue dans ce grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Bonjour Pierre Moscovici.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes au cœur de la machine européenne qui a perdu un gros moteur vendredi. Vous serez d'ailleurs demain à Bruxelles avec vos confrères pour plancher sur l'après-Brexit, sauf le Britannique qui a démissionné.
Jonathan Hill sera là quand même. Il sera là parce que ça, d'abord sa démission prend effet le 15 juillet. Puis vous savez, la vie continue, les institutions continuent. C'est un choc symbolique et politique, économique aussi tout à fait majeur. Mais en même temps, la Grande-Bretagne, je veux le dire, est toujours membre de l'Union européenne jusqu'au jour où elle ne l'est plus.
C'est une des questions.
Et ça, c'est quand même important à le savoir.
Quand le Royaume-Uni ne sera-t-il plus ? On verra ça tout à l'heure. En tout cas, les leaders européens répètent depuis vendredi qu'il faut faire redémarrer ce moteur sans qu'on sache vraiment comment, quand, pourquoi. Est-ce qu'il y a un plan B ? Est-ce qu'il existe ? Quel scénario, vous le disiez, pour la sortie de Londres ? Et puis, quelles conséquences pour nos économies ? Et enfin, tous ceux qui réclament dans toutes les autres capitales que Londres un référendum, est-ce qu'ils ont tort ? Voilà, autant de questions pour vous, Pierre Moscovici, qui seront posées par Alexis Brezet, directeur des rédactions du Figaro, et Christophe Jacubizine de TF1-LCI. Et tout à l'heure, Benoît Galeret viendra avant la fin de l'émission. Déjà beaucoup de tweets, vous me disiez, Benoît, sur le hashtag Le Grand Jury pour Pierre Moscovici.
C'est bien cela. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Les internautes se le demandent. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, vos remarques, avec le hashtag Le Grand Jury, tout attaché. Choisis les plus pertinents et je vous rejoins en fin d'émission. À tout à l'heure.
Merci. À tout à l'heure. Hashtag Le Grand Jury. On compte sur vous, Pierre Moscovici, pour répondre à toutes ces questions. Nous sommes un immense point d'interrogation depuis vendredi, depuis ce vote britannique. On a une heure pour cela, mais d'abord... vous incarnez, peut-être malgré vous, la technocratie européenne qui a subi un rejet de la majorité des Britanniques. Est-ce que vous vous sentez, vous aussi, visé par ce vote ?
Visé, non. Concerné, oui, bien sûr. J'espère ne pas incarner la technocratie bruxelloise, mais simplement la démocratie européenne. Car il se trouve que dans ma vie politique, ça fait longtemps déjà, j'ai été dans les trois institutions. J'ai été membre du Parlement européen pendant 6 ans, j'en étais vice-président. J'ai été membre de ce qu'on appelle le Conseil des ministres, puisque j'ai été ministre pendant 7 ans, ministre des Affaires européennes, ministre de l'économie des finances. Je suis maintenant à la Commission. Et je peux vous dire que la Commission, non, ce n'est pas le démon technocratique.
Vous savez ce qu'a dit Jean-Pierre Chevènement hier matin.
Jean-Pierre Chevènement est très constant sur ces affaires.
Des 28 gugus qui composent la composition et que personne ne connaît.
Les insultes ne servent à rien. Les insultes, au contraire, ne font que abaisser ceux qui les profèrent. Jean-Pierre Chevènement est un homme politique pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai d'ailleurs été membre du même gouvernement que lui, avant qu'il claque la porte et qu'il fasse ce qu'il a fait ensuite, c'est-à-dire faire perdre à la gauche l'élection présidentielle de 2002. Mais bon, il devrait, je pense, aussi être un peu dans la retenue.
Mais non, c'est vrai que l'incarnation quand même de l'Europe, c'est un peu l'échec des fédéralistes.
Permettez-moi de développer ça quand même. Il n'y a pas 28 gugus à la Commission. Il y a 5 ou 6 personnes qui ont été Premier ministre. Il y a Jean-Claude Juncker qui a été Premier ministre et qui a été pendant 20 ans.
Oui, mais les Européens n'ont pas l'impression d'être représentés
quand je vois les gens dans la rue, je vois qu'ils savent à peu près qui je suis.
Oui, ça vaut ici, en France, mais est-ce que vous êtes en Allemagne ou en Italie ?
C'est la même chose pour les représentants de ces
pays.
Ma collègue italienne est ancienne ministre des Affaires étrangères, etc., etc. Donc arrêtons. Et il y a surtout une chose que je veux dire, qui est plus fonctionnelle et politique, c'est que la Commission n'est pas le super gouvernement de l'Europe. La Commission n'est pas la représentante d'un super État. Qu'est-ce que c'est que la Commission ? La Commission fait les propositions, elle prend les initiatives. Sur les réfugiés, si on suivait la Commission, si on était à l'écoute de ses propositions, on irait beaucoup mieux. Et le Parlement européen délibère.
Si ça ne marche pas, c'est la faute des États, pas de la Commission.
Ce sont les États membres qui, souvent, ralentissent et ne décident pas avec des procédures qui sont à l'unanimité, qui créent des blocages. Je ne dis pas que la Commission, c'est la perfection, mais je peux vous dire que dans le rôle où je suis aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous faisons, dans l'intérêt général de l'Europe, les bonnes propositions et que souvent nous ne sommes pas écoutés. Je suis commissaire à la fiscalité. Jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'au scandale type LuxLeaks ou Panama Papers, il fallait 5 ans pour parvenir à des directives fiscales. Aujourd'hui, il faut 5 mois. 5 mois, pourquoi ? Parce que les Français et les Européens n'en peuvent plus n'en peuvent plus de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale, des privilèges de certains, et qu'ils sont conscients qu'il faut l'éviter. Donc, accélérons. Mais la Commission, elle est dans son rôle. C'est une force de proposition,
alors,
une force motrice.
Elle ne doit pas porter le chapeau de ce qui se passe.
Elle doit prendre sa part. Je disais, je suis concerné. Oui, nous devons changer des choses, bien sûr. L'Europe doit aller plus vite,
est-ce que
c'est efficace,
plus démocratique. C'est un vote contre l'élite, quand même, Pierre Moscovici, contre l'establishment. Elle est perçue comme ça, l'Europe, aujourd'hui. C'est pour ça que je vous posais la question. Quelle est la part de responsabilité que vous prenez ?
Importante, parce que nous avons la responsabilité de la relance de l'Europe. Et là, je me sens tout à fait interpellé. Je pense que la Commission européenne, dans cette période, avec les autres, avec la France, avec l'Allemagne, doit prendre des initiatives fortes. Pourquoi ? Parce que d'où vient cette crise européenne ?
Il faut. Vous a surpris ce vote ?
Absolument pas. Je vais vous citer une anecdote. Il y a deux ans.
Vous êtes un des rares.
Mais oui, mais ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas été surpris. Il y a deux ans et demi, j'étais encore ministre des Finances, où j'étais parlementaire en mission. J'ai été voir George Osborne, que je connais bien, le chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances britannique. Et je lui ai dit, George, vous vous apprêtez dans votre campagne électorale à proposer un référendum. Faites attention. Et je le dis aussi à ceux qui, en France, maintenant, se jettent sur le référendum. On y reviendra peut-être. Faites attention.
Pourquoi ?
Parce que quand tu fais un référendum sur l'Europe, tu ne connais pas la question, mais tu connais déjà la réponse.
Oui, ce sera non.
Parce que d'un côté, vous allez avoir toutes les émotions qui se libèrent. De l'autre côté, des choses extrêmement compliquées à défendre. Vous savez, sur quoi a été la campagne du Brexit ? Elle a été sur un sujet qui n'est pas le sujet essentiel de cette affaire, qui n'est pas le sujet économique, qui n'est pas le sujet social. Elle a été sur l'immigration. On a entendu des horreurs, des atrocités. En 2005, on a eu un référendum en France. Est-ce que vous pensez qu'on a parlé une seconde de la Constitution européenne ?
Vous êtes en train de dire aux Français, dormez tranquille, non, on s'occupe de tout pour vous. Alors, on n'a pas besoin de vous consulter.
Puisque je suis dans une émission de qualité, je vais peut-être avoir l'occasion de développer mon argument. D'abord, première chose, il y a un besoin de consultation et de débat sur l'Europe des Français et des Européens qui est massif. Vous savez, on n'en parle jamais et on en parle mal.
De l'Europe, vous êtes ici, y compris aux élections européennes.
Une grande émission, on parle très peu de l'Europe, les médias parlent peu de l'Europe, alors que pourtant, c'est l'essentiel. Et on en parle mal. Et moi, je souhaite que les deux années qui viennent...
Les partis politiques en parlent mal, y compris d'ailleurs les socialistes qui avaient fait une campagne extrêmement défensive aux dernières élections européennes.
Défensive et parfois divisée. Là, pour le coup, je suis prêt à balayer devant la porte des socialistes et donc devant la mienne, parce que je suis socialiste. Et on doit être beaucoup plus pro-européen que ça, mais
l'européanisme un peu honteux.
Honteux, timide, médiocre souvent, paresseux. Mais je viens quand même au débat. Les deux années qui viennent vont être des années européennes. Il va falloir qu'on négocie la sortie du Royaume-Uni.
Il va falloir
qu'on négocie un statut particulier, une relation avec eux. Et puis, il y a des élections. Il y a des élections en France,
en Allemagne,
en Italie, aux Pays-Bas. Les quatre pays fondateurs de l'Union européenne, avec la Belgique et le Luxembourg, qui sont aussi maintenant, après le retrait du Royaume-Uni, les quatre pays principaux sur le plan économique. Et moi, je souhaite que ces campagnes soient des campagnes où on parle de l'Europe et où les choix sont affichés. Je souhaite qu'il y ait des débats avec les forces sociales, les forces économiques, les forces politiques, les syndicats, les intellectuels.
Dans la présidentielle, mais pas dans un référendum.
Mais, attendez, je viens au référendum. Et le référendum, on ne peut pas l'exclure, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que je vous dis faites attention ? Pourquoi est-ce que je dis à tous ceux... Marine Le Pen, ça fait un certain temps. Je vois maintenant qu'il y a Bruno Le Maire, qu'il y a François Fillon, qu'il y a Emmanuel Macron. Les uns les autres se jettent sur le référendum comme des morts de faim. Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Pourquoi est-ce que je dis attention ? Parce que le référendum, ça blesse, ça brûle, ça divise. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous avez les Écossais qui vont réclamer leur indépendance. Les Irlandais qui vont réclamer leur unité. Vous avez les Londoniens qui se vivent maintenant comme une enclave dans leur propre pays. Vous avez tous ces jeunes qui ont voté à 70% pour rester dans l'Union européenne, et parce que leurs aînés de 60 ans ont voté contre, pendant 50 ans, ils vont souffrir de ça.
Plus 60, plus 70.
La deuxième chose, c'est que ça déforme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable, dans ce type de consultation, d'échanger des arguments qui soient autres que passionnels et parfois névrosés.
Comment vous expliquez que chaque fois qu'on interroge un peuple européen sur l'Europe, qui répondent non. Parce que là, on s'étonne, alors pas vous, du vote anglais, mais il y a eu les Danois deux fois, les Irlandais deux fois, non, les Suédois, les Français en 2005, les Hollandais en 2005, les Grecs en 2015. Chaque fois qu'on interroge un peuple, il dit non. Est-ce que ça ne vous pose pas quand même une question ?
Mais ça pose un énorme problème. Et encore une fois, je ne fuis pas le débat démocratique. Je dis faites attention au référendum. Ça n'est pas le
même chose. Est-ce que ce n'est pas la réalité qui est en cause ?
Il y a des pays comme l'Allemagne qui ne sont pas moins démocratiques que la France, où on n'est pas en train de se jeter sur le référendum toutes les 5 minutes. Et vous savez, ceux qui aujourd'hui sont en train de se lancer dans la campagne présidentielle en disant référendum, référendum, ils devraient penser à David Cameron. David Cameron est un homme qui, pour gagner des élections, a proposé un référendum et qui, à l'issue, a perdu le pouvoir, il va démissionner, et qui en plus restera dans l'histoire britannique.
Les Français,
permettez-moi d'aller jusqu'au bout.
Permettez-moi d'aller jusqu'au bout.
C'est pas une question de destin individuel.
C'est que, mais il va rester comme l'homme qui aura fait sortir son pays de l'Union européenne et qui aura peut-être, d'ailleurs, fait exploser le Royaume-Uni.
Mais tant pis pour lui, ce qui est important,
mais c'est pas une question de tant pis pour lui. Je n'ai pas d'attachement.
C'est une expression démocratique, quand même.
Mais les Français,
ce n'est pas la seule. Vous avez une élection présidentielle, c'est une expression démocratique. Vous avez une élection parlementaire, c'est une expression démocratique. Vous avez un système représentatif, vous avez des modes de consultation des Français. Je ne suis pas opposé au référendum, mais j'aimerais qu'un jour, il y ait un référendum dans ce pays qui soit un référendum pour une vision partagée et pas un référendum qui divise et qui ébranle. Comment vous expliquez que les
anti-Brexit en Grande-Bretagne, par exemple.
Il
ne
faut pas jouer avec ça. Je pense que ceux qui le font sont des apprentis sorciers qui manient de la nitroglycérine et des pompiers pyromanes.
Mais est-ce que ça n'est pas
et qu'à l'arrivée, on récolte bien souvent ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, c'est-à-dire la division, la blessure, la douleur, qu'on fait perdre leur avenir aux jeunes générations.
Vous nous dites qu'il faut avoir peur des conséquences, mais est-ce que ça n'est pas l'aveu que ceux qui vendent l'Europe, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, ne savent pas le vendre? Pourquoi est-ce que ce que vous appelez les populistes qui, effectivement, attaquent l'Europe, parlent aux tripes des électeurs?
Je pense qu'il y a un problème de leadership et d'incarnation, je pense qu'il y a un problème de démocratie. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il faut regarder? Encore une fois, ce n'est pas la modalité qu'il faut mettre en avant. Moi, je voudrais qu'on mette le projet en avant, qu'on mette la substance. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'Europe d'aujourd'hui? Pourquoi ce vote? Et pourquoi les autres votes? C'est ça la vraie question. Je vais vous dire quoi. À mon sens, d'abord, il y a les dégâts de la crise économique et sociale qui sont toujours là, ces cicatrices qui sont profondes, et que l'Europe n'a pas réussi à penser avec un A. L'Europe, disait Jacques Delors, c'est l'équilibre entre la justice sociale et l'efficacité économique. Aujourd'hui, la perception, c'est qu'il n'y a ni efficacité économique ni justice sociale, donc il faut des résultats, donc une politique économique et sociale qui soit plus efficace. Deuxièmement...
Mais ça fait quand même 10 ou 20 ans qu'on dit ça.
Mais elle est là, depuis 10 ou 20 ans, la crise, Christophe Jacubizine. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer les pots cassés. Et pour ça, la tentation, c'est de dire on va tirer sur le pianiste européen, on va jeter l'Europe de côté, et on va trouver pire, parce qu'on va trouver à la place le nationalisme. Il y a la question...
Et vous l'avez dit, la crise migratoire tout à l'heure, vous avez dit que c'était surtout ça. Et ça, l'Europe est en accusation.
Je ne dis pas surtout ça, je dis que ça, c'est quelque chose qui est dans la tête des gens aujourd'hui.
Et c'est vécu comme un échec colossal de l'Europe.
Et donc, il faut vraiment faire en sorte de protéger nos frontières. Il faut faire en sorte de faire en sorte de se défendre. Donc ça, c'est aussi une cause majeure. Vous avez le choc du terrorisme, vous avez l'absence de démocratie en Europe. Et pour moi, la réponse, c'est pas le référendum, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour reconstruire une politique.
Et oui, on a l'impression que ce nouveau chantier, il n'est pas été préparé. On voit, par exemple, regardez, on était étonné vendredi qu'il n'y ait pas une réunion d'urgence entre François Hollande et Angela Merkel. Il faut attendre mardi. On se dit que quand même, ce scénario-là devait quand même être vous-même. Vous êtes commissaire, vous vous en doutiez. Donc j'imagine que vous avez
alerté. Est-ce qu'il y avait un plan B ou pas, Pierre?
Je m'en doutais comme citoyen, je ne l'ai jamais dit. Mais vous savez, pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas de plan B?
Parce que d'abord,
il ne fallait pas de plan B. Quand vous commencez à dire que vous avez un plan B, c'est que vous ne croyez
plus
à votre plan A.
Mais
il y a des choses qui sont heureusement préparées. Si on va pouvoir peut-être entrer dans le détail. Il y a d'une part ce qu'on doit refaire pour l'avenir, il y a ce qu'on doit traiter tout de suite. Par quoi on commence?
L'avenir peut-être.
Commençons par l'avenir. Pour moi, oui, il y a aujourd'hui un malaise dans la civilisation européenne. Et il faut être capable de recréer un sentiment d'appartenance. Et évidemment, il faut répondre aux crises et il faut avoir là une très forte ambition. Moi, je voudrais juste là dessiner trois pistes. La première, c'est qu'on a à l'évidence besoin d'une Europe qui protège nos concitoyens, qui soit assimilée à la sécurité. Et de ce point de vue-là, des avancées sont à faire sur la politique des réfugiés, où il faut maintenant une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus systématique, avec
des
instruments financiers.
Est-ce qu'on pourra le faire dans le cadre des institutions actuelles? Est-ce que vous allez pouvoir...
On va venir après au nouveau traité, etc. Si vous voulez, on va
nouveau traité, vous prononcez le mot.
Je ne suis pas pour, mais puisque vous soulevez la question implicitement, je vais expliquer pourquoi je ne suis pas pour.
Alors,
et pourquoi
la protection,
la protection, la défense aussi, c'est un sujet majeur sur lequel on est prêt à avancer, avec y compris le financement de politiques pour mieux accueillir et mieux intégrer les réfugiés, tout en ayant des accords avec les pays tiers pour limiter le flux. Je voudrais d'ailleurs dire un chiffre au passage. c'est que la politique qui a été suggérée par la Commission fonctionne, puisque les demandeurs d'asile sont à peu près 260 000 au premier trimestre 2016, ce qui est déjà pas mal, ce qui n'est pas non plus une invasion, et la France est 6% de ça, ils étaient plus de 426 000 il y a un an, donc le flux diminue, ce qui veut dire aussi qu'on a besoin de traiter avec des États comme la Turquie, même s'il ne s'agit pas de les faire adhérer à l'Union européenne. Premier point. Deuxième point, à l'évidence, on a besoin d'une relance, j'allais dire, de la réponse économique à l'économie réelle de la part de l'Union européenne. Ça veut dire d'abord résoudre ou résorber le déficit d'investissement de l'Europe. Aujourd'hui, en Europe, on investit...
Donc un gros
encore,
plan d'investissement sur
quoi ? Il y a déjà un plan d'investissement.
Et donc, c'est
le plan Juncker, 315 milliards d'euros.
On le met entre parenthèses si on doit investir massivement.
Non, le plan Juncker, par exemple, n'est pas quelque chose comme une entrave ou une exception. C'est un plan de 315 milliards d'euros qui fonctionne d'ailleurs. C'est 100 milliards d'euros. On le trouve à travers, la Banque européenne d'investissement, à travers ce qu'on a fait, c'est le budget européen. Je pense que ce plan doit être consolidé, doit être prolongé.
Est-ce qu'on peut puiser, par exemple, dans le mécanisme européen, vous savez, de sécurité qui a été... Daniel Cohn-Bendit qui suggère ça, prenons les milliards-là pour investir pour les jeunes, pour l'avenir.
Ça, c'est la troisième piste pour moi. Parce que, oui, je voulais dire, l'économie réelle, il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi tout ce qui est recherche et développement, il y a tout ce qui est capital humain en général. Il y a pourquoi ne pas proposer, en effet, aux jeunes. Parce que l'Europe, c'est ça, c'est du concret. C'est un Erasmus pour tous, c'est-à-dire une capacité à voyager dans tous les pays de l'Union européenne, un Erasmus pro, c'est-à-dire pas seulement pour les jeunes qui sont...
Pour les collégiens, comme le propose Daniel Cohn-Bendit et quelques autres.
Je pense qu'il faut calibrer tout ça, mais je parlais d'un Erasmus pro, je parle beaucoup des apprentis, pour que ce ne soit pas réservé aux sachants, aux futurs sachants ou aux décideurs. Donc ça, c'est le deuxième bloc.
Ça renforce évidemment l'adhésion à l'Europe et ça permet de développer l'emploi et en tout cas, et de façon harmonieuse.
Et la cohésion sociale. Et puis le troisième pilier pour moi, c'est la zone euro. Parce que vous allez avoir l'Europe à 27 et vous aurez l'Europe à 19 qui est un système efficace, protecteur, qui appartiennent à la zone euro. Et ceux-là, je pense, ont besoin maintenant d'avoir une politique économique qui soit à la hauteur de leur politique monétaire. Vous avez une politique monétaire qui est conduite aujourd'hui par la Banque Centrale Européenne et je veux dire au passage qu'elle est très bien menée par M. Draghi parce que les signaux qu'il a donnés ont permis de sauver l'euro.
Il ne faut pas un fonds monétaire européen comme le suggère Nicolas Sarkozy ?
Alors,
il dit le FMI.
Après, c'est là où vous parliez du MES. Il faut réfléchir à tout ce qu'on fait. Pour moi, la première des choses à faire dans la zone euro, c'est une politique économique. Et il faudra pour ça avoir un budget ou une capacité financière qui soit capable, par exemple,
de proposer un socle de surendettement
ou d'investir. Et ça, je pense que c'est tout à fait majeur. Tous les économistes le savent. On a besoin d'un outil.
Mais ça n'a pas marché avant. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui ? On n'a pas réussi à le faire avant. Oui. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on prendrait ces décisions-là ?
Si vous raisonnez comme ça. On dit, voilà, les Britanniques ont voté contre, on arrête tout, ils ont eu raison, et on reste dans le statu quo. À l'évidence, quand vous avez un choc de cette nature-là, il est nécessaire d'avoir un sursaut. Et moi, je plaide pour ce sursaut européen. Et je vais poursuivre sur la zone euro et terminer. Une fois que vous avez cette capacité financière, vous avez besoin d'avoir une gouvernance, comme on dit, une incarnation qui soit plus forte. Je plaide, moi, et depuis longtemps, pas parce que je suis commissaire chargé de la matière, croyez-le, pour un ministre de l'économie et des finances de la zone euro,
qui soit
responsable devant le Parlement européen, qui dispose d'un trésor européen, et sur la fiscalité...
C'est un peu des rustines.
Ce ne sont pas des rustines. Je vous assure, Alexis Brézel, que le jour où vous aurez une vraie politique de protection et de sécurité en Europe, le jour où vous aurez une vraie politique d'investissement, et le jour où vous aurez une zone euro équilibrée entre son pilier monétaire et son pilier économique...
Les Européens seront réconciliés avec l'Europe.
Pierre Moscovici,
vous aurez surtout plus de résultats. Parce que c'est par les résultats que vous allez réconcilier les... Vous n'allez pas les réconcilier
Pierre
par un traité
Moscovici,
ou par des
pour lever les doutes,
vous allez réconcilier par les résultats et par l'efficacité.
Que formulait justement Christophe Jacubizi. Par exemple, la protection, c'est votre premier point. Quelle première mesure, mais vraiment concrète, que les auditeurs, téléspectateurs comprennent ce qui va changer dans l'Europe après ce choc. Première mesure, c'est quoi ? Les frontières, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, d'abord, nous avons une frontière commune. Et je pense que nous devons surtout éviter le repli national, la bunkerisation à l'intérieur de nos frontières nationales. D'ailleurs, je voudrais donner un chiffre, là encore. Si on revenait avant Schengen, comme certains semblent préconiser, à protéger nos frontières nationales comme on le faisait auparavant, on aurait en réalité trois fois plus de frontières à défendre, puisqu'on aurait aussi des frontières intérieures.
Aujourd'hui, Schengen, et quasiment plus personne n'applique.
Schengen est suspendu en partie, mais jusqu'en novembre, et je souhaite qu'en novembre, vraiment, les choses reprennent leur cours.
Mais les frontières communes, on n'a pas l'impression qu'elles soient défendues aujourd'hui.
Il faut mettre en place, comme la Commission le propose, un corps de garde-côtes et de garde-frontières qui viennent renforcer de manière massive ce que fait aujourd'hui Frontex, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit capable.
Européen.
Mais européen, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des modernes négriers qui font transiter des hommes et des femmes qui y mettent tout leur argent en Méditerranée et qui viennent souvent, ils viennent y mourir. Des passeurs. Mmh. On doit combattre tout cela. Deuxième.
Vous mobilisez, vous avez un plan B, vous avez réfléchi à tout ça, vous mobilisez combien de personnes
Attendez, Elisabeth Martiou, je n'ai pas moi la prétention d'être seul.
Non, mais ceux qui vous entendent espèrent que vous pourrez les éclairer.
Je vous donne mes idées. Ouais. Et je pense qu'en l'occurrence, ces idées-là, elles rejoignent les idées de la Commission européenne. Et je répète que sur les réfugiés, on aurait dû écouter davantage la Commission européenne. Parce qu'il faut aussi faire fonctionner ces accords avec les pays tiers, avec la Turquie. C'est extrêmement compliqué, la relation avec la Turquie. Et la Turquie, à l'évidence, n'est pas un pays en état d'adhérer maintenant.
On voit... Attendez, parce que là, on entend beaucoup de voix qui disent bon, maintenant, il faut dire, les Européens sont clés, il faut dire que la Turquie n'est pas en état d'adhérer maintenant.
Mais
elle n'a même pas de raison d'adhérer. Il faut dire aujourd'hui, c'est ce que demande par exemple Sarkozy, il faut dire aujourd'hui que la Turquie n'entrera pas en Europe.
C'est un vrai débat, et de toute façon, la question
c'est. Non, mais c'est un vrai débat. Sortons de l'hypocrisie.
Attendez. Il y a 20 ans, je ne suis pas hypocrite et je ne suis plus dans une situation, je n'ai plus besoin de faire de langue de bois, je suis candidat à rien, donc je suis là où je suis et je suis là pour défendre mes idées. Il y a 20 ans, quand j'étais le jeune ministre des Affaires européennes de Lionel Jospin, le temps passe, 19 ans, j'étais favorable à l'adhésion de la Turquie. Et j'étais là, au Conseil européen de 1999, où on a décidé que la Turquie serait un pays candidat. Quand je dis « on », Jacques Chirac,
bien sûr,
Gerhard Schröder, tout le monde, tout le monde. Et d'ailleurs, personne ne l'a remis en cause depuis, je le signale. Même Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, même si sa relation avec la Turquie était extrêmement médiocre, on le sait.
Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Il faut dire c'est fini.
Alors, non, je vais jusqu'au bout. Je pense que vous avez une négociation qui est en cours, vous avez des chapitres qui s'ouvrent, et la décision de suspendre cette négociation, ou de l'interrompre, ou de l'arrêter, serait une décision extrêmement lourde. Ce que je crois, ce que je crois, c'est que cette négociation, elle est aujourd'hui à un point extrêmement embryonnaire, qu'il est inenvisageable que la Turquie adhère dans les décennies qui viennent.
Inenvisageable dans les décennies.
Mais oui, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, c'est un processus de très long terme.
Ça se fera quand on
mais
sera mort,
en même temps, vous devez être... on doit garder la porte
Reste
ouverte. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait dire aux Turcs, débrouillez-vous. Soyez vraiment ce que vous menacez d'être, c'est-à-dire un pays qui est complètement livré à je ne sais quel islamiste, non plus musulman démocrate, mais on ne sait quoi. Vous voulez qu'on ne traite plus avec vous. Il faudra trouver un statut particulier.
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver un scénario qui ne peut pas être réalisable? Est-ce que ça n'est pas un mauvais signal pour l'identité européenne?
Un partenaire majeur pour l'Europe.
Est-ce que ça n'est pas un mauvais signal pour construire cette identité européenne que de commencer par dire on ne le fait pas maintenant, mais on ne le dit pas? Je vous pose la question, s'agissant de la Turquie.
Écoutez, essayons d'imaginer. Il y a des scénarios de politique fiction. Ce qui se passe en Turquie, honnêtement, n'est pas toujours encourageant. Les relations avec M. Erdogan sont pour le moins compliquées. Mais elles sont aussi tout à fait nécessaires. Vous savez, par exemple, que si cet accord Union européenne-Turquie n'existait pas, on aurait une crise migratoire qui serait très supérieure à ce qui se passe aujourd'hui. Donc la relation est obligatoire.
Donc au fond, il nous tient, on est bien obligé de continuer à parler.
Non, c'est pas ça que je dis, parce que il ne s'agit pas de céder à je ne sais quelle pression. Il s'agit de trouver une réponse qui soit une réponse pour le long terme. Imaginez, je ne pense pas que ça arrivera, mais imaginons, parce qu'il faut aussi avoir des options plutôt favorables dans le temps, que sur les 35 chapitres de négociation, dans 20 ans, dans 15 ans, je ne sais pas.
Ceux qui sont en cours avec la Turquie.
C'est parce que ces 35 chapitres, une négociation, tout était rempli. C'est-à-dire que finalement, la Turquie soit devenue européenne. Elle n'en prend pas le chemin, je l'avoue. Et d'ailleurs, il y aura peut-être un référendum en Turquie contre la négociation d'adhésion. Mais imaginez ça. Eh bien, nous verrons ce qui se passe dans 15 ans, dans 20 ans. Et je pense qu'il faut, bref, ne pas fermer la porte, tout en sachant que c'est plus que compliqué.
Alors, à propos de frontières, qu'est-ce qui se passe à Calais, Pierre Moscovici? Est-ce qu'il faut maintenant que... Elle est où, la frontière?
Je ne vais pas répondre à ça, ce n'est pas du tout...
Votre souhait, votre avis?
Non, je vais laisser quand même la commission...
Est-ce que la frontière, elle est à Calais en vertu d'un accord avec les Anglais?
Vous soulevez autre chose, qui est la relation globale, je préfère globaliser, avec le Royaume-Uni. C'est ça dont il s'agit. Première des choses, le Royaume-Uni, aujourd'hui, et jusqu'à ce que la négociation qui entérine le divorce, en quelque sorte, soit terminée, le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne. Totalement membre de l'Union européenne. Au fond, ce vote a tout changé dans notre perception, dans le futur de nos relations, mais il n'a rien changé aujourd'hui. C'est ce qu'on disait tout
à l'heure. Pourquoi c'est important de le répéter ça?
Parce qu'il n'attendait pas qu'il y ait demain quelque chose de totalement nouveau. Le Royaume, c'est pas comme s'ils étaient sortis du jour au lendemain.
Il faut que ça aille vite ou pas
je sais que c'est compliqué, mais ouais. C'est pas un claquement de doigts. Nous avons des procédures pour ça, ouais. Qui d'ailleurs ont été mises en place récemment par ce qu'on appelle le traité de Lisbonne, c'était en 2009. Heureusement. et c'était dans le traité constitutionnel de 2005. Heureusement. Imaginez
donc
qu'on n'ait pas de procédure
du tout.
Dites. Alors, si vous permettez, peut-être soyons un tout petit peu pédagogues.
Il reste 2 minutes avant la fin de la première partie.
D'accord, ça s'appelle l'article 50
du traité de Lisbonne.
Il faut qu'il y ait une notification de la part du pays concerné de sa volonté de sortir, d'où la demande qui doit être faite, en effet, à M. Cameron, de le faire vite, parce qu'il n'y a pas de raison de prolonger l'incertitude.
Et vite, c'est quand? Puisqu'il l'a dit, d'ici octobre.
Ils n'ont pas tellement envie d'aller vite.
En effet, ce que je crois, ce que j'attends, ce que je comprends, c'est qu'il est possible que les 27 États membres de l'Union européenne, hors Royaume-Uni, demande cela à M. Cameron, par exemple, lors du Conseil européen qui se tiendra. Ouvrez la négociation, parce que derrière, c'est toujours
engager
pas rapide.
Engager la procédure de divorce.
La procédure, elle prend 2 ans, et il va falloir tout discuter.
C'est 2 ans, quoi.
Attendez,
maximum, minimum, c'est quoi
Moscovici.
C'est 2 ans maximum qui peuvent être prolongés. Mais aussi, là, par exemple, la négociation n'est pas, je dis le traité, n'est pas conclu. Au bout de 2 ans, l'État est réputé sorti ou être parti. Donc,
est-ce qu'on
y a
un moyen de pression? Est-ce que vous avez un moyen de pression sur Londres si Cameron et son successeur laissent traîner?
Il n'y a pas dans les textes de moyen de pression, mais c'est la raison pour laquelle la pression doit être une pression politique. Parce que la Grande-Bretagne, j'y insiste quand même, ne sera plus membre de l'Union européenne, mais c'est un pays européen. Il ne faut quand même pas être ingrat et oublier totalement notre histoire. La France libre, en 40, elle était à Londres. La France collaboratrice était à Vichy. C'est un pays qui est un pays allié, c'est un pays où des hommes et des femmes se sont battus pour nous, sont morts sur notre sol. Donc,
mais le peuple britannique a exprimé un souhait, c'est de sortir.
La majorité du peuple britannique, mais vous savez, j'évoquais tout à l'heure ce qui peut blesser et diviser. Vous avez un pays où il y a des centaines de milliers de Français qui travaillent. Vous avez des dizaines de milliers d'étudiants qui étudient. Il y a beaucoup de Britanniques qui votent dans nos villes pour les élections municipales, qui sont des citoyens profondément européens. Vous avez des pêcheurs qui pêchent avec des quotas de pêche. Vous avez des liens tellement intimes.
Ils pourront plus voter,
qu'il faudra
plus pêcher.
Absolument. Et donc, il faudra être capable de redéfinir tout ça. Parce que vous avez d'une part le divorce.
C'est-à-dire, vous avez le PACS, comment, après, le nouveau PACS.
Et après, il faudra trouver une relation qui fasse en sorte que l'Europe reste, bien sûr, un pays stratégique, un pays européen, même si ce n'est plus un pays de l'Union européenne. Quand vous prenez la Suisse, par exemple, ou la Norvège, voilà des pays d'Europe, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Je ne dis pas qu'il faudra d'ailleurs faire ou la Suisse ou la Norvège, ce sont deux modèles assez différents, mais tout ça, c'est ce qui nous attend. Et c'est la raison pour laquelle il faut aller vite. Donc je souhaite que la demande arrive maintenant. Il ne faut pas non plus se précipiter et faire comme si, d'un coup, hop, du jour au lendemain, c'était fini.
Vous avez vu
là,
Tony Blair hier matin dans une interview qui a dit « Oh là là, gardez vos nerfs, gardons nos nerfs, il n'y a pas le feu. »
C'est aussi ce qu'a dit Angela Merkel.
Mais voilà, Madame Merkel est moins pressée que, par exemple, François Hollande.
Ce n'est pas une question d'être pressé. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que attendre 3 mois pour avoir la notification, c'est trop long. Et je pense que le message général qui sera adressé à M. Cameron, c'est « Allez plus vite pour ce point-là. » Mais après, il y a encore des mois, des années de négociations. Et donc, il faut aussi garder ses nerfs.
Et nous, il nous reste une demi-heure après la pause de ce grand jury RTL Le Figaro LCI avec Pierre Moscovici. A tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douane. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Alexis Brezza du Figaro et Christophe Jacubizine de TF1 et LCI. Une petite question avant de revenir à l'avenir et notamment au traité possible. Il y a des Anglais qui rêvent que finalement leur Parlement ne vote pas dans le même sens que le peuple, qu'il y ait une nouvelle consultation qui soit organisée. La question est simple, est-ce que c'est réversible ce qui s'est dit par référendum, le Brexit?
Non. Je pense que c'est un vote qui est un vote qui a eu lieu après une campagne extrêmement longue, avec une participation extrêmement forte, avec un résultat qui est extrêmement clair. Et bon, je comprends le désarroi des millions de Britanniques qui déjà font une pétition pour un nouveau référendum.
Il y en a 3 millions de signatures.
Je comprends le désarroi des parlementaires, mais non, le référendum, je pense, engage. Et en
plus, ce serait catastrophique à nouveau de nier la parole du peuple.
Il faut maintenant mettre en œuvre cette décision.
On n'a pas toujours dit ça, 2005.
J'ai été, moi, membre de la Convention européenne qui a élaboré le traité constitutionnel. J'ai fait campagne pour le oui. Et j'ai été, je crois, le premier à 20h à dire le traité est mort-né. Il faut tenir compte du vote du peuple. Quand il y a référendum,
à l'occurrence, on n'a pas tellement tenu compte. On l'a ressorti 2 ans plus tard.
Non, on a sorti un autre traité qui s'appelle le traité de Lisbonne, qui était un traité un peu plus simple, mais avec des choses utiles. Monsieur Brezet pensait que s'il n'y avait pas eu ce traité de Lisbonne, aujourd'hui, on n'aurait pas
dire, mais on peut pas dire qu'on a tenu compte du vote du peuple.
On a quand même l'impression qu'on paye aujourd'hui, justement, si ce n'est pas la négation de 2005.
Si tout le monde pense, encore une fois, je souhaite qu'un jour, on puisse consulter le peuple sur un projet partagé, élaboré en commun, ça c'est une consultation démocratique qu'on n'a pas encore conçue, les référendums ne sont pas la panacée. Dans la Constitution française, vous avez par exemple 2 voies pour la réformer, vous avez la voie du référendum ou la voie
du Congrès.
Du Congrès. Les parlements sont quand même des institutions fortes qu'on ne peut pas décriminer. Alors, cela dit, quand il y a eu référendum, non, l'idée qu'un parlement puisse déjuger un peuple,
donc c'est irréversible.
Pas, réaliste.
Justement, est-ce que pour le convaincre ce peuple que l'Europe va changer, est-ce qu'il ne faut pas un nouveau traité? Il y a beaucoup de gens, notamment à droite en France, qui disent ça. Il faut un nouveau traité, moins de pouvoir pour la Commission, plus de démocratie.
Moins d'État peut-être.
Moins de compétences pour l'Europe, meilleure prise en compte des nations. Est-ce qu'il faut un nouveau traité pour dire aux gens, voyez, on vous a entendu, on change?
Je laisse à ceux qui ont fait cette proposition la responsabilité de la proposition, et qui m'a paru d'ailleurs argumentée, étayée. Je trouve qu'il y a un débat là tout à fait respectable qui naît.
Lèche Valéza aussi, dit quand une maison tombe en ruine, il faut mieux tout détruire et reconstruire une nouvelle.
Premièrement, je ne crois pas que les Français se lèvent tous les matins en disant « nouveau traité, nouveau traité, nouveau traité ». Deuxièmement, je ne pense pas, contrairement à ce que dit M. Sarkozy, qu'un nouveau traité s'élabore en 4 mois. Troisièmement, je ne pense pas non plus, contrairement à ce que dit M. Sarkozy, qu'on ait besoin de remettre tout l'édifice institutionnel et politique par-dessus tête.
Pourquoi ?
Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que la Commission, à mon sens, ne méritait pas d'être brûlée en place publique.
Vous êtes son avocat, pas, en même temps, vous êtes membre, donc voilà.
Je l'assume tout à fait, et je pensais la même chose quand j'étais ministre des Finances. Si je suis membre de la Commission, c'est parce que j'ai un passé européen assez long et un engagement continu.
Donc il ne faut pas tout changer, au fond.
Il ne faut pas tout changer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, y compris dans le fonctionnement des institutions.
Et on peut le faire dans le cadre,
tout changer.
Alors, le traité existant change en gardant la règle du jeu.
Donc je vous réponds, le grand traité rapide et immédiat qui bouleverse tout, je ne le crois pas nécessaire et je ne le crois pas possible. En revanche, si au terme d'un travail démocratique approfondi et d'un travail politique minutieux, on s'aperçoit, je citais par exemple des changements dans la gouvernance de la zone euro, qu'on a besoin de changer les traités. Vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, la proposition de transformer le MES en fonds monétaire européen. Ça voudrait dire, pardonnez-moi, je ne veux pas être technique, mais qu'on le communautarise. C'est-à-dire que désormais, au lieu d'être une instance intergouvernementale, il entre dans la procédure de décision avec justement la Commission, avec le Parlement européen, etc. Et s'il advenait qu'on prenne des décisions qui vont en avant, on pourrait modifier les traités. Par exemple, c'était à l'époque où M. Sarkozy était président de la République, on a créé ce mécanisme de stabilité. Pourquoi pas ? Donc, je suis favorable, quand c'est nécessaire, à une modification des traités pour améliorer les choses. Je ne crois pas au grand soir de l'Europe qui modifie tout et tout de suite.
En revanche, est-ce qu'on
ne crois pas que ce soit ni nécessaire ni possible ? Suis-je clair ?
Oui. En revanche, est-ce qu'on peut prendre rapidement quand même des décisions très concrètes ? Par exemple, on va prendre 2 exemples. Les travailleurs détachés, on sait le fiasco de cette directive, qui n'est même pas respectée d'ailleurs, appliquée à la lettre dans les différents pays. La négociation du traité TAFTA, est-ce qu'il ne faut pas, avec les États-Unis, est-ce qu'il ne faut pas arrêter maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses très concrètes ?
Prendre une ou 2 décisions tout de suite.
Sur cette directive sur les travailleurs détachés, je pense qu'il faut au contraire profiter de l'opportunité pour aller de l'avant, parce que la
mais
demande...
Mais ça veut dire quoi ? Elle n'est pas respectée en France, les travailleurs détachés.
Attendez,
la Commission européenne, prévu par la directive.
Vous savez sans doute, la Commission européenne a mis sur la table une proposition de directive qui s'est heurtée à ce qu'on appelle le carton jaune d'un certain nombre de pays. Je voudrais que ces pays lèvent leur carton jaune pour qu'on puisse aller vers une directive simple qui soit à travail égal, salaire égal.
Mais tant qu'on ne change pas le traité, on ne peut pas forcer, on ne peut pas empêcher ces pays qui sont souvent des petits pays de mettre leur carton jaune et de tout bloquer.
Monsieur Jacubizine, je ne voudrais pas qu'on qu'on tombe dans la démagogie générale.
C'est la démagogie, là, c'est...
N'imaginez pas qu'on peut changer un traité sans l'accord de tous. Par définition, pour changer les traités, y compris pour changer
certains... Concret.
Arrêtez.
La directive, elle sera bloquée, celle que vous proposez, qui rénoverait...
Non, je vous dis, moi, je crois beaucoup à ce que les circonstances créent et à ce qu'elles créent des impulsions politiques. Je vous disais tout à l'heure, en matière de fiscalité, les Panama Papers ont multiplié, accéléré 10 fois le processus d'adoption des procédures en matière fiscale. Pourquoi pas la directive sur le travail détaché ?
Je vais jusqu'au
bout. Je vais jusqu'au bout sur ce point-là, puisque vous me demandez un point concret. Ce que proposait la Commission, c'est bien, c'est-à-dire qu'on remplace le principe dit du pays d'origine, autrement dit, vous avez
Vous
remplacez ça par le pays de destination. Ouais. Donc, je souhaite que cette directive voit le jour sur les négociations.
Vous le souhaitez. Il va falloir attendre.
On me demande si je le souhaite. Je réponds que je le souhaite. Mais personne n'a le pouvoir.
On ne peut pas prendre aujourd'hui une décision rapide pour donner un signal au peuple et de dire voilà, c'est notre Europe.
Ça, c'est la force des populistes qui disent eux, justement, nous prenons le pouvoir. Vous avez les pays qui bloquent.
Pardonnez-moi, mais vous illustrez tout à fait ce que je redoutais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le Yaka Faucon, faisons-le tout de suite. L'Europe
et du blocage. Mais
Elisabeth Martichoux, l'Europe n'est pas tombée par terre. L'Europe reste un ensemble politique et institutionnel très fort dont nous devons sans doute accélérer les procédures, améliorer les procédures, mais les détruire, faire comme ça, claquer des doigts, dire on fait la table rase, ce serait mortel, ce serait revenir simplement nos frontières. Moi, vous savez,
l'Europe
j'ai commencé comme parlementaire européen. Pardonnez-moi.
L'Europe n'est pas extrêmement affaiblie par ce qui s'est passé.
Je vous donne, moi, ma conviction très profonde. J'ai commencé, j'étais parlementaire européen, c'était en 94. J'avais 36 ans. Et à l'époque, François Mitterrand, en 95, est venu devant le Parlement européen. Il a fait son discours testamentaire. Je m'en souviens. Et tout le Parlement s'est levé, à part Jean-Marie Le Pen. Le nationalisme, c'est la guerre. Et si on démolit l'Europe, on aura, j'en suis sûr, des formes de guerre en Europe
mais
à nouveau.
Pas que
c'est pas mineur ce qui se passe.
En compte les nations. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de voir mais dans tous les pays et
bien sûr,
partout des pays
bien
et
sûr,
les partis anti-européens se lèvent à cause de ça.
Je vous disais tout à l'heure que les États membres sont toujours les décideurs en Europe. Ça, c'est ce que Jean-Claude Juncker dit. La Commission propose, la Commission exécute, le Parlement légifère et délibère. Ce sont les États membres qui décident. Que les États membres prennent leurs responsabilités. Vous parliez tout à l'heure de leadership. Le leadership, ça doit être avant tout des hommes et des femmes qui viennent des États membres. On attend un leadership franco-allemand. On attend un leadership qui soit...
Il n'existe pas de leadership
aujourd'hui. Vous trouvez qu'il est à la hauteur de la question qui a été posée vendredi ?
Je pense que maintenant, il est au rendez-vous de l'histoire. Et Angela Merkel et François Hollande ont, je pense, la responsabilité de prendre maintenant des initiatives fortes
qui
permettent de relancer l'Europe.
Ça n'a pas l'air très bien parti.
Ils en sont... par définition capable, parce que elle est la chancelière de l'Allemagne, parce qu'il est président de la France. Ils ont besoin de le faire. Je pense que c'est attendu. Vous savez, la France, plus que jamais, est un pays cœur de l'Europe.
Et vous avez dit tout à l'heure, Pierre Moscovici, moi je fais pas de langue de bois. Angela Merkel, elle est déjà pas d'accord sur le rythme de sortie. Elle a dit qu'il faut prendre son temps.
La réaction, elle dit qu'il faut se méfier de l'actionnite, il faut pas trop agir.
Non, elle n'a pas du tout dit ça. Elle a dit qu'il fallait prendre son temps. Elle a eu, et c'est son tempérament, une réaction rassurante où elle a dit au fond aux Allemands ce que je suis en train de vous dire. Ne croyez pas que le fait qu'il y a eu un référendum signifie qu'ils sont partis demain. Non, ça prend du temps. Et dire aux gens, voilà, ils vont partir. Pour l'instant, ils sont encore là. Il y a un divorce qui va durer 2 ans. C'est quand même, je pense,
vous attendez
qu'il
faut une grande initiative de Merkel.
J'attends des initiatives.
Qui pourraient prendre la forme de...
C'est à vous de le dire. Écoutez, franchement, je vous ai donné mes idées.
Sur la protection.
Je pense simplement qu'il faut avancer sur les 3 terrains que j'ai évoqués. La protection, l'Europe qui investit, qui prépare son avenir, et la zone euro qu'il faut rendre plus forte. Pas sans toucher au traité, sans créer un nouveau grand traité. Pas de grand soir institutionnel, mais des modifications de traité, si elles sont nécessaires, oui, bien sûr.
Sur le traité transatlantique, on arrête ?
Sur le traité, non, on n'arrête pas.
Est-ce que ce n'est pas ça une des craintes des peuples, de se dire cette Europe, elle s'ouvre à tout, elle ne nous protège pas ?
Je vais vous donner là encore ma position. Nous sommes dans un moment populiste en Europe. Et je crains que ce type de référendum ouvre aussi, libère la violence symbolique. Et pourquoi pas d'ailleurs la violence physique ? Pensez à cette jeune femme qui est morte, je ne dirais pas à cause de ses convictions, mais avec ses convictions. Et les populistes sont à l'assaut partout. Et moi, je réponds que quand on est face à des populistes, on ne leur cède pas. On n'est pas en train de dire sans arrêt « vous avez raison ». Le populisme light, c'est l'antichambre du populisme hard.
C'est qui, le populisme light?
C'est tous ceux qui disent, au fond, on arrête tout, on se replie sur soi, on ne fait pas tout à fait comme le Front National, on fait un chouïa moins, mais on fait un peu pareil. Alors, et je ne vais pas les nommer.
Mais le traité transatlantique, c'est bien.
Attendez, je voudrais, parce que je pense qu'on est sur des questions qui sont vraiment des questions essentielles, là. Il faut répondre à ça par une Europe qui soit populaire. Donc, il faut donner des réponses qui permettent d'engendrer des résultats. Le traité transatlantique, là aussi, il faut arrêter les fantasmes. Un, si nous sommes capables d'avoir un bon traité transatlantique, c'est meilleur pour nous que pour les Américains, parce que leur économie est plus fermée que la nôtre. Et donc, nous ne devons pas être contre ce principe. Deux, si le traité n'est pas bon, il ne faut pas de traité. Et trois, aujourd'hui, la négociation ne permet pas de conclure, parce que nous n'avons pas résolu les questions sur les marchés publics, sur la politique agricole, sur les normes sanitaires et environnementales. Il faut que la Commission continue à négocier sous le contrôle des États, parce qu'elle ne le fait jamais toute seule, pour parvenir à un bon traité. Si nous l'avons, c'est mieux pour tout le monde et pour notre économie. Si nous ne l'avons pas, il n'aura pas lieu. Ne nourrissons pas les fantasmes, je vous en prie.
Alors, il nous reste assez peu de temps à beaucoup de questions. Combien va coûter, c'est une des questions que se posent les Français aussi, entre autres, ce divorce. Déjà, en termes de croissance, est-ce que ça va peser? Par exemple, Thierry Breton, ce matin, dans le journal du dimanche, avance un chiffre. Ça va nous coûter entre moins 0,2 et moins 0,3% de croissance.
On est en vérité incapable de le dire aujourd'hui. Je pense, s'agissant de nos économies, qu'elles sont aujourd'hui beaucoup plus solides que ne l'ont été ces dernières années, que la croissance...
Est-ce qu'elles vont être impactées?
Je ne crois pas qu'elles le soient inévitablement, mais il faut aussi mettre en place les bonnes mesures. Et qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, un, lever l'incertitude. Je crois que c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut, en effet, que le processus s'ouvre rapidement, parce qu'il va durer un certain temps, mais il faut qu'on sache où on va. Deuxièmement, et il faut que les États membres et les banques centrales soient prêtes, et elles le sont, à prendre toutes les mesures pour injecter des liquidités à hauteur des besoins. Il y a eu une réunion par téléphone, j'y participais, pour la commission du G7.
Pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi, mettre des liquidités dans les tuyaux?
Ça veut dire qu'il faut être capable de s'assurer que le système bancaire soit solide, que le crédit soit alimenté. Et deuxièmement, il faut aussi que...
Donc la tempête financière de vendredi, à votre avis, ça va vous attaquer ou pas?
Nous n'avons pas vécu vendredi un crack.
Non,
nous avons vécu
une
correction et puis aussi un bouleversement. Je pense qu'il y a tout à fait les moyens, mais il faut agir. Et les banques centrales, ils sont prêtes, et les gouvernements, ils sont prêts pour réconforter les marchés, leur dire que ça continue. Et de ce point de vue-là, le message doit être clair. C'est pas « ils sont sortis tout de suite », c'est « on va préparer les choses en bon ordre » et aussi une relation qui soit une relation convenable.
Oui, concrètement, ça coûtera...
Si l'Angleterre ne paie plus, il faudra payer à sa place.
On verra ça dans deux ans. Et encore une fois, c'est différent selon les modalités qui sont retenues. Vous avez le système suisse, c'est-à-dire vous avez des accords bilatéraux avec des politiques auxquelles on participe. Vous avez le système norvégien, c'est-à-dire...
Où la Norvège paye.
Où la Norvège paye. Ça dépendra aussi de la négociation. Donc personne ne peut
Vous souhaitez quoi? Que ce soit la norvégienne, le maintien des relations avec...
Je ne veux pas conclure une discussion avant qu'elle commence.
Non, mais je ne demande pas... Mais vous, votre souhait politique.
Je souhaite que la Grande-Bretagne soit un partenaire le plus proche possible de l'Union européenne. Mais c'est à elle de
donc,
le dire.
Un accès au marché unique.
La seule chose que je pense, c'est que ça sera très mauvais pour la croissance du Royaume-Uni. Mm-hmm. Parce qu'ils ont perdu d'un coup beaucoup de pouvoir d'achat avec leur monnaie.
Oui, mais bizarrement, la bourse de Londres a beaucoup moins baissé que les bourses européennes. Comme si les investisseurs considéraient que c'était plutôt une mauvaise nouvelle pour nous que pour eux.
Mais la livre a beaucoup baissé.
Oui, mais pas les marchés.
Je vous donne mon sentiment. Là, pour le coup, il y a eu des chiffrages qui ont été faits. Ils sont plus sévères pour le Royaume-Uni que pour l'Union européenne.
La City va rester à Londres ? Ça va rester une place financière.
Et l'Écosse, c'est quoi ?
Alors, ne faites pas comme si tout était écrit, ils ne faisons pas de politique.
Non, mais l'Écosse.
Sur l'Écosse,
c'est un sujet.
L'Écosse est bienvenue pour adhérer à l'Union ?
Il faut que les Écossais prennent leur destin en main, et c'est à eux de choisir la façon dont ils le feront. Mais on voit aussi ce que ça crée, c'est-à-dire c'est une fragmentation. Un risque de fragmentation. C'est pas seulement l'Union européenne qui est en cause, c'est aussi le Royaume-Uni.
Mais si
demande
à adhérer, vous dites, ben oui, venez.
Attendez, vous êtes pressé, monsieur Bazin.
Non, mais c'est des questions qu'on se pose.
Mais nous n'avons pas aujourd'hui toutes les réponses. C'est très clairement ça.
Une dernière, l'anglais va rester la langue première, puisque le Royaume-Uni était le seul pays qui vraiment avait cette langue.
Ce n'était pas la seule raison pour laquelle l'anglais était une langue non pas principale, parce que le français est une langue principale. Et moi, qui suis le commissaire français, je parle toujours français. Mais je sais parler anglais, mais je parle français là où je suis. Et ce sera sans doute une langue véhiculaire, mais il y a un autre message que je veux donner. C'est que les fonctionnaires britanniques de la Commission sont des fonctionnaires européens.
Ils sont pas bien.
Je vais vous prendre un exemple. Je suis, moi, commissaire chargé des affaires économiques, monétaires, fiscales et douanières. Je suis le seul, d'ailleurs, deux directions générales.
Ça fait combien de personnes, par curiosité ?
C'est 2000 personnes, à peu près. Un peu moins, 1700 peut-être. Et une des deux directions, la direction de Taxud, la fiscalité, est dirigée par un directeur général britannique. Je profite d'être chez vous pour lui renouveler ma confiance. Parce qu'il est loyal, parce qu'il est compétent, parce qu'il est européen. Et donc les fonctionnaires de la Commission doivent savoir qu'ils sont des Européens.
Donc ils resteront, ils rentreront
donc,
pas chez eux.
Ils sont dans deux ans, ils ne peuvent pas.
Ça fait aussi partie des choses qu'ils vont discuter, il faudra trouver des réponses. Mais
c'est pas décidé encore. Mais
par définition, jusqu'au référendum, on ne savait pas. Maintenant, on entre dans une nouvelle époque.
Qui gardera les enfants, c'est qui gardera les fonctionnaires anglais.
Il faudra garder le meilleur de tout. Il faudra essayer de garder le meilleur de tout. Et encore une fois, moi je souhaite que la Grande-Bretagne soit un pays européen, même si elle n'est plus un pays membre de l'Union européenne.
On va faire un petit salto là. On va arriver à la politique française avant d'accueillir Benoît Galeret. Benoît, pouvez-vous nous rejoindre déjà. François Hollande est d'accord pour participer à une primaire. Vous avez été le directeur de campagne de François Hollande en 2012. Il est d'accord, a priori, pour une primaire en janvier. Ça ne vous choque pas, vous, que dans la Ve République, le président sortant se soumette à cette consultation préalable à la grande?
Première chose, on dit qu'il est d'accord, je n'en sais rien, et il n'est pas aujourd'hui tout à fait candidat.
Il a mis des doutes quand vous l'avez vu.
Je ne parle pas de ça. Vous doutez bien, on ne parle plus du tout de politique, on est vraiment devenu. Je suis l'incarnation de la technocratie, la politique, je sais même plus ce que c'est. Je plaisante bien sûr. Il nous arrive de parler politique, mais je ne parle pas de ça. Donc, quand même, ayant un petit doute méthodique, il n'est pas candidat. Deux, comme citoyen, comme responsable politique, je le suis toujours et je n'ai pas changé d'avis.
Vous serez engagé dans la campagne?
C'est vous. Je prendrai position, mais je ne pourrai pas m'engager. J'ai un devoir de réserve.
Position pour un candidat, par exemple Hollande.
Je suis social-démocrate, je suis socialiste. Je voterai socialiste, comme d'autres votent conservateur. Dans leur pays, c'est naturel.
Vous irez voter aux primaires ?
Et j'irai voter aux primaires s'il y en a, bien sûr. Mais ce que je ne ferai pas, je ne ferai pas de meeting, je ne ferai pas de controverse. Demain, après 2017, je travaillerai avec le président de la République et le gouvernement élu, quel
mais
qu'il
c'est
soit.
C'est une bonne idée, la primaire, avec président sortant.
Alors, je pense ensuite que ce n'est pas l'idée qui, moi, m'aurait séduit le plus, parce que j'ai une certaine conception des institutions et du rôle du président de la République. Cela dit, je comprends que c'est toujours le produit d'une circonstance. C'est sans doute pour la gauche la meilleure manière de se retrouver. Je ne crois pas que les gauches sont irréconciliables, et je pense que les gauches doivent se réconcilier. Et donc, cette primaire, il faut la réussir. Comment faire ?
Vous ne voterez pas pour Manuel Valls s'il est candidat,
en revanche. C'est ça qui est...
Parce que lui pense que les gauches sont irréconciliables.
Je peux avoir des différences avec lui et voter pour lui à un moment donné. C'est pas, enfin, je veux dire, la politique.
C'est une grosse différence quand même.
Je ne suis pas, on n'est pas des monolithes. Vous savez, dans une élection,
c'est comme une différence majeure une élection, de considérer que les gauches ne sont pas irréconciliables.
Dans une élection, on choisit. On élimine aussi, donc si vous voulez, je ne sais pas du tout de quelle
façon. Par défaut, Manuel Valls.
Je n'ai pas dit ça. Mais non, je ne suis pas en train de voter là. Et vous me posez des questions auxquelles je n'ai vraiment pas la réponse. Mais je vais aller jusqu'au bout de cette affaire. Comment peut-on la réussir ? La réussir, c'est d'abord accepter la règle du jeu, c'est se respecter, c'est éviter de se détruire, et c'est respecter le président de la République qui a agi au nom d'une majorité tout au long de son quinquennat, ne pas oublier
que
tous, à tous. Et il y a un deuxième message que je veux passer, et il vaut pour la droite comme pour la gauche d'ailleurs, là je me place un peu en extraterritorialité. Faisons attention quand on est dans des primaires, parce qu'on est dans une société très transparente, où les citoyens ne supportent plus qu'on fasse des promesses qu'on ne tient pas. Les engagements de campagne maximalistes se paieront au carré.
Vous pensez à mon ennemi, c'est la finance ?
Il peut arriver que ça se paye pour tout le monde. Et on peut faire bien pire que ça. J'évoquais tout à l'heure le référendum. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de référendum, je dis qu'il faut manier ça avec beaucoup de prudence et que le seul référendum qui vaille est un référendum qui crée consensus. Évitons des promesses qui brûlent, déchirent, divisent et abîment. Et ça, il faut que cette primaire, comme celle de la droite d'ailleurs, elle soit maîtrisée. Je le souhaite parce que je vois mon pays fragile. Je le vois vulnérable face au populisme. Je n'ai pas envie de ça.
Alors, les internautes vous ont écouté et regardé depuis le début de l'émission, Pierre. Benoît Galeret.
En effet, donc, on a parlé Brexit et ils ont beaucoup réagi. Ça avait mal commencé puisque vous dites ne pas avoir été surpris par le résultat de ce vote. Alors, Maxime, vous envoie, mais pensez-vous avoir du flair ? Le Brexit sera évité. Le Figaro du 25 janvier 2016. Il a aussi retrouvé ce tweet de Radio Classique. C'est toujours très tendu, mais j'ai confiance. Le Royaume-Uni restera uni dans une Europe unie. Ça, c'était le 21 avril 2016.
C'est ce que je souhaitais, oui.
Beaucoup ont l'impression. y a beaucoup de tweets, je me permets de vous couper parce que le temps file, mais vous pourrez réagir, qui vous disent toujours plus d'UE, c'est la réponse qu'ils ont l'impression de vous entendre, alors que des années on va dans le mur, vous répondez elle doit aller encore plus vite, et vous traite d'autiste. Nietzsche dit les peuples veulent moins d'UE, mais les technocrates européens qui en vivent disent plus d'Europe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu un dialogue de sourds à ce niveau-là?
D'abord, première chose, je respecte beaucoup les médias sociaux, mais malheureusement, je suis dessus, je dois avoir, je sais pas, 165 000 followers sur Twitter. Trop souvent, il y a quand même un peu d'agressivité, de violence, et je reste tout à fait poli. Les médias sociaux, il faut les utiliser, les fréquenter, il faut aussi savoir ce qui s'y trouve. Deuxième chose.
C'est pour ça que j'ai tourné ainsi, vous avez l'impression d'un dialogue de sourds.
J'imagine que ça peut être bien pire, je n'ai pas de doute là-dessus, mais je ne suis pas en train de le consulter, je suis avec vous. Deuxième chose, pour ce qui est de la Grande-Bretagne, je vous ai dit qu'en mon fort intérieur, j'ai redouté toujours le Brexit et j'ai pensé que quand on ouvrait cette boîte de Pandore, la réponse était bien souvent non. Mais j'ai souhaité le Remain parce que je pense que c'était vraiment beaucoup mieux pour la Grande-Bretagne d'être dans l'Union Européenne et c'est mieux pour l'Union Européenne d'avoir la Grande-Bretagne comme membre. Les Britanniques ont choisi autrement. J'ai fait campagne à ma façon. Non, j'ai exprimé mon souhait.
Plus d'Europe, parce que c'est vrai que les gens disent...
Je réponds, il y avait deux points. Il faut plus d'Europe. Je pense en effet qu'il faut plus d'Europe, mais pas au sens de toujours la même chose. Il faut une meilleure Europe. Il faut retrouver cet équilibre que j'évoquais entre la justice sociale et l'efficacité économique. Il faut mieux protéger. Il faut que l'Europe elle soit capable de produire les résultats que les citoyens attendent d'elle. Mais ça ne veut pas dire le retour au nationalisme. Ça ne veut pas dire se replier sur soi. Ça ne veut pas dire abandonner. Ça ne veut pas dire reculer. Ça ne veut pas dire tirer sur le pianiste. Ça ne veut pas dire brûler la commission. Ça veut dire faire en sorte que les choses fonctionnent mieux. Et si je devais dire, ce n'est pas plus ou moins, c'est surtout une meilleure Europe. Une Europe qui répond aux aspirations de ses citoyens.
Donc pas moins d'Europe, on a compris. Une meilleure
pas moins d'Europe, non. Je suis européen, je l'ai toujours été. Je pense que je mourrai comme ça.
D'autres ont l'impression que l'Europe va essayer de mettre le Brexit sous le tapis, comme il l'avait fait pour le référendum de 2005. Vous nous avez dit que vous ne croyez pas à cette pétition de plus de 3 millions de personnes qui voudraient revoter à nouveau sur le Brexit. En revanche, il y a le Premier ministre d'Écosse qui assure qu'il peut mettre un veto au Brexit et qu'il peut bloquer tout ça. Nicola Sturgeon, vous y croyez pas?
C'est une femme. C'est pas un premier ministre. Je pense que franchement, quand un peuple s'est exprimé, il faut le respecter, même si on n'aime pas le vote. Encore une fois, moi j'ai été un des plus ardents défenseurs de la Constitution européenne en 2005, j'ai été le premier à dire que c'était fini le jour du vote. Et c'est comme ça. Le référendum, c'est un peuple qui décide avec ses tripes et avec sa sagesse, avec ses erreurs parfois, mais il faut respecter ça.
Françoise se demande si le Royaume devient désuni. Est-ce qu'on peut récupérer l'Écosse et l'Irlande du Nord? Est-ce qu'on peut avoir un petit bout du Royaume-Uni au moins qui reste en Europe?
C'est rester en Europe. Non, pas comme ça, puisque c'est le Royaume-Uni qui est sorti. Après, dans l'hypothèse où vous auriez d'autres États qui en sortent, il faudrait négocier à nouveau. Mais il n'y a pas d'ailleurs que l'Écosse, il y a aussi un tout petit bout d'Europe dont je voudrais parler une seconde, puisque aujourd'hui les Espagnols votent, c'est Gibraltar. Mmh. Gibraltar n'est pas tout à fait en Grande-Bretagne, et ils ont voté à 96% pour leur Remain. Imaginez la situation des habitants de Gibraltar. Et voyez aussi ce que les référendums font parfois.
Juste, ça va
mieux. Fait souffrir.
Vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais le ça va mieux de François Hollande, vous pensez qu'il ne va pas être un peu amoindri par la situation européenne?
Je pense que la situation économique de la France s'est améliorée comme celle de la zone euro. Chômage, finances publiques, il faudra être vigilant pour revenir en dessous de 3%, je le serai, mais je pense que c'est tout à fait jouable. Et aussi croissance. Et je pense qu'il y a tout à fait moyen de conserver la croissance française, la croissance de la zone euro. Là-dessus, je veux être tout à fait rassurant. Oui, nous avons les moyens de conjurer les risques, mais il faut lever l'incertitude.
Elle s'est améliorée, la situation de la France, mais moins que les autres, notamment en matière de chômage. Pourquoi?
Ah ben ce serait toute une autre émission à laquelle je pourrais participer, mais je
pense simplement qu'en termes
de croissance, si j'en crois l'INSEE, la France rejoint aujourd'hui à peu près la zone euro, 1,6, 1,7.
Et pas en termes de chômage.
En matière de chômage, le chômage devrait baisser, c'est aussi notre prévision.
Il a augmenté encore, le mois dernier.
Pour ce qui est d'une loi sur la réforme du marché du travail, nous en avons besoin.
Pour revenir à l'Europe.
Parce que nous avons besoin d'un marché du travail qui permette tout simplement d'accueillir ceux qui veulent y entrer.
Juste, la France se qualifie pour l'euro?
Je prie.
Tout à
je ne crois pas en Dieu, mais je prie pour la France.
De toute façon, au moment de la rediffusion de l'émission, tout à l'heure, à 18h30 sur LCI, les jeux seront faits. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'avoir accepté de participer à ce grand jury RTL Le Figaro LCI après le Brexit. Merci beaucoup, Alexis Brézet, Christophe Jacubizine, Benoît Galeret. Rediffusion donc 18h30 en intégralité et en replay sur RTL à 18h15. Bon dimanche, bonne semaine. À bientôt.